Micmac, l'émission bric-à-brac de Radio Saint-Av.
Des rencontres,
des reportages,
des coups de cœur,
de l'info. Après je sais plus, mais vous verrez bien.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Radio Saint-Afrique et j'ai le plaisir de vous présenter une toute nouvelle émission, Micmac. Avant de commencer, je pense qu'une présentation s'impose. Je m'appelle Aurélie, je suis venue gonfler les rangs de la rédac de Radio Saint-Af en février. J'ai signé un contrat en service civique pour 8 mois, donc je vous annonce, chers auditeurs, que vous devrez me supporter tous les mercredis à 12h10 pour mon émission hebdomadaire. On ne va pas en dire plus, je vous laisse découvrir le sommaire. Pour commencer en beauté, on va aller se balader du côté des Rougiers, dans un village chargé d'histoire. Ensuite, place à la musique avec ma sélection de la semaine. Et on finira avec la rubrique spéciale Bambin. Je vous soufflerai les dates à ne pas louper en cette fin de semaine.
Sur nos routes, au bout de l'impasse, au coin de la rue ou chez l'artisan, le micro de Radio Saint-Af nous balade.
Aujourd'hui, le micro de Radio Saint-Af nous a menés du côté des Rougiers, plus précisément sur le canton de Saint-Cernin, dans un petit village nommé Combrette. Construit sur un éperon rocheux dominant le Reims, le village était au Moyen-Âge une place forte. Marqué par ses constructions de grès rouge, Combrette mérite le détour. Pour vous parler du village, j'ai déniché dans les ruelles Marie-Claire Barthélémy, retraitée passionnée par l'histoire du village.
Combrette est un village moyenâgeux qui a garder encore beaucoup son authenticité. Un village moyenâgeux qui, pendant la période du Moyen-Âge, a quand même eu trois châteaux forts. Un a été construit au 9e siècle, le deuxième au 12e et le troisième au 14e siècle, dans des endroits différents. Il nous reste encore des vestiges des deux derniers, du 12e et du 14e siècle. Une période très riche aussi, c'est celle de la Renaissance, puisque nous avons encore des maisons Renaissance qu'on peut voir en se promenant dans les rues, on peut deviner leurs fenêtres à meneaux, leurs portes sculptées. Évidemment, il faudrait encore rentrer dans les maisons pour que ce soit encore plus intéressant. On a, qui est inscrite au monument historique Nual de Justice médiévale.
La halle de justice de Combrette est inscrite au monument historique ainsi que son église romane. Mais le village contient d'autres vestiges marqués par la succession de familles seigneuriales.
Les premières traces des seigneurs de Combrette, nous les avons de 1010, de la période 1010. Donc bien sûr, c'était les deux Combrette. Il y a une succession des seigneurs dominants de Combrette et jusqu'à la Révolution. À partir du XVIe siècle, les seigneurs de Combrette, il y a une succession de maisons qui se sont succédées. Je peux les citer brièvement. Par alliance, de Combrette s'est passé aux Roquefeuille, de Roquefeuille s'est passé aux Arpajon, des Arpajon ou la Rochefoucauld pour finir au Serre de Saint-Romain, la Révolution. À partir des Arpajon, donc on va dire XVIe, XVIIe siècle, eh bien les seigneurs de Combrette étaient toujours seigneurs de Combrette, étaient toujours seigneurs dominants de Combrette. Ils avaient les terres à Combrette, mais ils n'habitaient plus Combrette. C'est pour ça que des deux derniers châteaux forts, il ne reste pratiquement plus rien. Par contre, dans le village, il y avait beaucoup de familles seigneuriales, qui, elles, donc, étaient encore présentes au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. C'est pour ça que nous avons encore de beaux restes de maisons Renaissance.
Après ce bref rappel historique, allons justement voir de plus près ces vestiges. Marie-Claire Barthélémy nous invite dans le dédale de Ruelle à la rencontre de l'ancien Combrette. Nous commençons la visite par la place du château, où il ne reste qu'une tour du château fort construit au XIVe siècle. Puis, nous empruntons une petite ruelle pavée. Alors ici, on est sur une rue encalade, donc toujours avec ces jolies pierres à tendance rouge. Est-ce que vous pouvez m'en parler, donc de quand ça date ?
C'est moyenâgeux. Et donc nous allons descendre donc dans le village par ce qu'on appelle une calade. La calade, c'est quoi ? Ce sont des ruelles de pierres. Alors les pierres qui sont posées de champs, et par extension, on a appelé l'ensemble, la ruelle elle-même, la calade.
Nous descendons dans le village, passons devant l'atelier du potier et la mairie pour nous retrouver devant une maison à la façade imposante. Alors là, nous sommes devant une maison Renaissance, c'est bien ça?
Oui, une maison Renaissance, la maison des Depin de la Ferrandier, famille seigneuriale, donc habitant Combré, jusqu'au XVIIIe siècle. Alors elle est magnifique, cette maison. Fenêtres à meneaux, elles sont bien visibles, deux échauguettes, une porte qui est richement sculptée aussi, qui est du XVIe siècle. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est l'inscription en vieux français qui est sur la façade. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le village de Combré est certainement le village de l'Aveyron où on trouve le plus d'inscriptions anciennes. Elles sont apparentes comme celle-ci, beaucoup sont à l'intérieur des maisons. Et la particularité, c'est que là, nous avons une inscription en vieux français, mais qu'il y a d'autres inscriptions dans les maisons, en italien, en espagnol, en latin.
Et donc celle-ci, par exemple, qu'est-ce qu'elle veut dire?
On peut la lire. Vieux français. Alors, pense à la mort épouvantable, d'enfer l'horrible jugement, au paradis qui est perdu à Arable, tu prieras incessamment.
En contrebas de la maison, nous empruntons une deuxième calade. Restaurée par la commune, nous passons devant une autre maison Renaissance qui a appartenu, pour l'anecdote, aux arrière-grands-parents du peintre Toulouse-de-Lautrec. Après un arrêt sous ses fenêtres à meneaux, nous remontons une ruelle pour découvrir la halle de justice.
Alors là, nous sommes devant la halle de justice médiévale, c'est-à-dire que le seigneur de Combré rendait justice sous cette halle. Il avait la haute, la moyenne et basse justice. Il fallait que la halle de justice soit quand même à l'extérieur du château. Ils n'avaient pas le droit de juger à l'intérieur de leur château. Donc ici, évidemment, ça tombe bien, c'est juste sous le château féodal. Donc le seigneur de Combré rendait justice dans cette halle.
Et donc c'était lui le seul juge? Ou non, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui décidaient de la sentence?
Il y avait d'autres personnes, sauf la haute justice.
Pour les crimes de sang, donc.
Voilà. Sinon, pour les autres crimes, oui, il était assisté de juges, de consuls. Bon, j'ai oublié un petit peu tous les détails, mais il n'était pas seul. Et c'était public. C'est pour ça que la halle de justice est ouverte. Elle a eu un autre emploi quand même. Au XVIIIe siècle, elle est devenue une halle aux grains. Dans une des caves qui était au-dessous, on a retrouvé un ancien cétier de pierre. Il est à l'intérieur de la halle.
Un cétier?
C'est une mesure, une ancienne mesure, hein, parce que jusqu'à la Révolution, les mesures étaient différentes d'une ville à l'autre. Donc il y avait dans chaque ville ou village des mesures étalons. Donc c'était une mesure à grains en pierre, mesure étalon de l'Ancien Régime.
Et donc est-ce que ça a un rapport avec le moulin du village, le moulin à grains? Il vendait son grain ici?
Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mesure étalon pour les paysans qui venaient donc étalonner leurs mesures pour ensuite payer ceux qui étaient qui cultivaient les terres pour des seigneurs. Évidemment, il fallait qu'ils paient en mesure, en cétier.
Les dîmes, les redevances.
Voilà.
Pour terminer la visite, nous remontons au sommet du village, là où se trouve l'église romane, elle aussi inscrite au monument historique. Avec un peu de chance, vous y rencontrerez Jean-Claude Aubert qui se fait un plaisir à chaque visite de raconter l'histoire des fresques murales, du plafond en bois, de ses statues, etc. Vous l'aurez compris, Combré vaut le détour. C'est pourquoi la mairie, persuadée du potentiel du village, a monté un dossier pour l'inscrire au plus beau village de France. Nous avons rencontré le maire du village, Claude Barthélémy, qui nous parle de cette inscription.
Alors les critères sont d'avoir deux bâtiments inscrits au classé. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'église est inscrite, hein, ainsi que la halle. Et depuis nous venons d'obtenir donc l'inscription du site paysager de Combré. Donc c'est les principaux critères. Et puis il y a une commission qui se déplace et avec un expert qui vient expertiser le village.
La commission rendra sa décision courant 2014. En attendant, demandons à Monsieur le maire quels sont les avantages d'être inscrit au plus beau village de France.
Alors, les avantages, ils ne sont pas financiers. Hein. Les avantages, c'est de faire connaître notre village et de permettre de développer aussi et de faire vivre le village. Parce que si on amène des gens à Combré, ils iront peut-être, je l'espère, je le souhaite fortement, ils iront manger à l'auberge. Mais ces gens-là aussi, ils vont à côté, ils vont voir Saint-Cernin, Belmont, Saint-Afrique. Donc l'intérêt, c'est de faire venir un maximum de personnes au village.
La volonté est donc de dynamiser le village, mais aussi les alentours. Pour Claude Barthélémy, il est important de maintenir les commerces ruraux grâce au tourisme. Il espère aussi faire vivre l'unique commerce du village, l'auberge communale. Nous avons rencontré la gérante de l'auberge de la Tour, Brigitte Meuglin, qui a repris le commerce il y a 2 ans. Voyons ce qui a motivé son installation à Combré.
Je crois que c'est avant tout le village, le site, les personnes. Et puis c'était une auberge qui me plaisait dans la mesure où c'était quelque chose qui restait de petite envergure, où je pouvais me faire plaisir.
Se faire plaisir en faisant une cuisine de terroir avec des produits locaux. Je laisse l'aubergiste vous parler de sa cuisine.
Alors, je travaille donc avec uniquement des... Enfin, dans la mesure du possible, avec des produits locaux. Donc, que ce soit mes viandes, que ce soit tout ce qui est fruits et légumes. Et uniquement aussi au niveau produits laitiers. Donc, je travaille uniquement avec des produits qui viennent soit de Belmont ou de Combray. J'ai aussi réussi à trouver du beurre frais. Donc, je travaille uniquement avec du beurre frais qui vient de la laiterie de Vianne. Après, au niveau de ma cuisine, je vais dire que j'utilise des produits locaux et que j'ai un mélange un peu de recettes alsaciennes ou alors de recettes tout à fait personnelles. Là, je viens de faire des petits croque-monsieur aveyronnais qui sont faits à base de crêpes aux épinards avec du jambon de pays et du fromage de cèpe, par exemple.
Si les croque-monsieur aveyronnais vous tentent, passez à réserver. Les coordonnées seront disponibles sur notre site. L'auberge possède aussi 3 chambres d'hôtes et un bar pour une halte prolongée ou un café bien mérité. Revenons sur l'inscription de Combray au plus beau village de France. Brigitte Meuglin nous donne son avis.
Je pense que c'est très très important, ne serait-ce qu'au niveau de la restauration. Tous mes collègues pourront le dire. En général, un village qui est classé apporte à peu près 30% en plus de son chiffre d'affaires. Donc c'est évident que ça ne pourra faire que du bien à l'auberge.
Amoureux de patrimoine et d'histoire, un petit conseil, allez à Combray. N'oubliez pas de vous munir de bonnes chaussures, tout en dénivelé, le village se mérite. Pour terminer ce reportage, une dernière question à Marie-Claire Barthélémy, retraitée et passionnée de l'histoire du village.
Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus beau dans ce village? Qu'est-ce qui vous émeut ou qu'est-ce qui fait que vous prenez plaisir à faire ces visites?
Alors tout. Tout, parce que quand on se promène dans le village, on a les vestiges anciens et il y a l'âme du village qui ressort partout, dans toutes les petites rues.
Et cette âme, donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que pour...
Ah, mais c'est le passé. C'est le passé, c'est l'histoire du passé qui ressurgit devant une maison, devant un édifice, partout. Tout l'ensemble de Combray, c'est quand même un ensemble de maisons de pierre rouge, du grès de la région, et qui sont restées là, et qui sont là depuis très très longtemps. Donc, tout le passé ressurgit dans les rues de Combray.
Nous remercions de leur participation Claude Barthélémy, maire du village, Brigitte Meuglin, l'aubergiste, Marie-Claire Barthélémy et Jean-Claude Aubert qui ont eu la gentillesse de nous révéler tous les secrets du village. Si vous voulez plus de renseignements sur Combray, rendez-vous sur le site du village combray-aveyron.fr. Cette semaine, je vous ai sélectionné 2 morceaux d'Assaf Avidan, issus de son nouvel album solo, Different Pulse. Assaf Avidan est aussi le leader du groupe Assaf Avidan and the Mojos, qui a monopolisé dernièrement nos ondes avec le single One Day. Je vous laisse avec le titre Setting Scalpels Free.
Oh. is gonna last. 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 Is gonna last.
On continue avec Asaf Avidan et le titre « Love It or Leave It » issu de son dernier album.
Long are the days when you're turning away from the reasons you stroll. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves pound the shore of your womb. Sleeve. It's hard to believe, but it's yours. Love it, I leave.
Love It or Leave It d'Asaf Avidan. Maintenant, changeons de registre avec la rubrique des tout petits.
Mercredi, c'est ma journée et puis c'est tout. Mercredi, c'est ma journée et puis c'est tout. Crédit, c'est ma journée et puis c'est tout.
Qu'ils soient sages comme des images, collants comme des caramels mous ou excités comme des puces, Micmac leur déniche les bons plans et les souffle aux parents. Je vous propose demain soir d'aller faire un petit tour du côté de Millau, un tour théâtral ponctué de tours de magie, de comédie et de mélodie. L'association ASA-ATP propose du théâtre musical avec la compagnie Hangar Palace. Ce collectif de 6 artistes nous propose un spectacle familial avec l'adaptation d'un des contes de Perrault qui n'est autre que Peau d'âne. Caroline Ruiz, metteur en scène du collectif, nous présente ce spectacle.
C'est un spectacle en 3 parties. La première partie est très fidèle au texte de Perrault. Perrault avait écrit en prose et en vers. Et donc, on a fait un montage de ces textes et on en a fait une version théâtrale. Mais c'est vraiment les mots de Perrault qu'on entend. Et dans la deuxième partie, c'est le voyage de la jeune fille qui fuit son père. Et donc là, c'est une partie en musique, sans texte. Et la troisième partie, alors là, c'est totalement adapté. Ça a été écrit par nous. On s'écarte de Perrault, on garde l'histoire de la jeune fille qui devient esclave et du prince qu'elle va rencontrer et tout ça, mais c'est nous qui avons écrit. Voilà. Et au lieu que ça se passe dans une ferme, ça se passe dans un cabaret. Dans ce spectacle, on rend aussi un hommage au film de Jacques Demy, Peau d'âne, et on chante 4 chansons du film. C'est un spectacle où il y a beaucoup de magie. Il y a une magie dans les images, notamment en ce qui concerne les robes. Vous savez, les robes que veut offrir son père à Peau d'âne. Là, on a un effet très très beau d'une robe immense avec des projections vidéo dessus. Et il y a aussi de la magie plus traditionnelle avec des vrais tours de magie, puisqu'elle débarque dans un cabaret de magiciens. Voilà, c'est un spectacle très très poétique, très drôle, qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un spectacle à voir absolument en famille, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc les enfants y trouvent leur compte et sont émerveillés par tout ce qu'ils voient, puisque c'est très très visuel. Et les adultes y trouvent leur compte aussi, puisqu'il y a cet hommage au film de Demy, et parce qu'il y a un niveau de lecture qui leur est plus destiné.
Certaines chansons du film Peau d'âne de Jacques Demy seront interprétées pendant ce spectacle. On écoute un extrait de la musique originale intitulée « Conseil de la fée des lilas ».
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Pour rencontrer Peau d'âne, le prince, la marraine fée et les magiciens, rendez-vous demain soir à 19h30 au Théâtre de la Maison du Peuple à Millau. À partir de 6 ans, le spectacle est à 11 € pour les adhérents de l'association ASA-ATP et à 18 € plein tarif. Plus d'informations sur le site maisondupeuplemillau.fr. Envie de chasse au trésor ? Ce week-end, ce sera plutôt la chasse aux œufs. Et oui, dimanche, c'est le jour de Pâques. Tradition oblige, le syndicat d'initiative de Sainte-Eulalie de Cernon propose une chasse aux œufs dans le village. Le rendez-vous est à 15h, place de l'église. Une participation de 2 € est demandée. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site du syndicat ste-eulalie-larzac.com. Le château de Montaigu en fait de même. Tout le week-end, la chasse aux œufs est ouverte dans le château féodal. Une découverte ludique et gourmande vous attend. De samedi à dimanche, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Tarif 2 €. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site château-montaigu.com. One, two, three, go! émission touche à sa fin. Merci à Jean pour la technique. Vous retrouverez l'émission en podcast sur le site de la radio. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine, même fréquence, même jour, même heure. Bonne fin de semaine à tous sur Radio Saint-Aff et prenez garde aux excès de chocolat dimanche.